Émission On en jase. On vient d'avoir un excellent segment avec le caucus avec Antonine Iaccarini. Toujours intéressant. On est revenu sur cette chicane entre Bernard Drainville et Christine Fréchette. On a eu Pascal Paradis qui a confirmé que le PQ, c'est non pour un troisième lien. C'est une septième voie sur le pont Pierre-Laporte et c'est un abaissement du pont de Québec. Vous êtes en colère, les amis, présentement au 418-971-1021. Continuez de nous texter, ça nous fait toujours plaisir de vous savoir à l'écoute. Pascal, on vient de faire un gros tour d'actualité politique avec nos intervenants, midi 52. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans l'actualité? Il y a énormément de, je veux pas les appeler, faits divers, nouvelles plus du côté judiciaire.
Il y a un adolescent qui a été arrêté ici, là, dans la région de Québec, aujourd'hui par la GRC pour terrorisme. Alors, il aurait fait la promotion d'un groupe néo-nazi sur les réseaux sociaux. Et là, on a été capable de l'intercepter et on a vu qu'il voulait recruter d'autres individus. C'est pour ça qu'on a procédé à son arrestation. Donc, promotion d'idéologie violente de l'entité terroriste Division Atomwaffen. C'est un groupe qui est inscrit sur Facebook et les réseaux sociaux depuis février 2021. Et c'est surtout inscrit sur la liste des entités terroristes du gouvernement canadien depuis un bout. Alors, il va comparaître demain, au Palais de justice de Québec. On parle d'un groupe avec extrémisme violent à caractère idéologique. Il y aura plus de détails, bien sûr, plus tard. Les véhicules électriques, on est revenu là-dessus avec Mark Carney qui a pris la parole aujourd'hui. Ottawa veut ramener les subventions. Alors, vous allez peut-être pouvoir acheter un nouveau véhicule avec une subvention autour de 5 000 Ça sera à préciser quand même, mais c'est un mois après avoir annoncé l'arrivée de véhicules chinois au Canada qu'Ottawa a confirmé le retour des subventions pour l'achat d'autos électriques de 50 000 $ et moins. Sinon, du côté de Jean-François Roberge, alors on parle toujours d'immigration, du programme de l'expérience québécoise, le PEC, avec les immigrants. On a écarté une clause de droit acquis pour les travailleurs étrangers, vous le savez, ça fait beaucoup jaser, mais là on s'engage à admettre 6 300 employés du réseau de la santé visés par le PEC. Pourquoi? Ben parce que l'avenir est incertain, le réseau de la santé, on a besoin de gens. Alors, on commence un peu, je pense, à matérialiser le manque d'effectifs qui pourrait se matérialiser avec ces renvois-là. Et on parle du programme de sélection des travailleurs qualifiés aussi, qui a remplacé le PEC, et ce, d'ici la fin de 2026. Je vous parle aussi à Toronto de cette saga, bon, difficile à croire, où 7 policiers, un ex-agent de la paix aussi, à la retraite, qui ont été arrêtés et qui auraient été impliqués dans divers crimes, dont des complots pour meurtre, fusillade, extorsion, des vols, trafic de stupéfiants. C'est énorme. Conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui, arrestations qui ont eu lieu hier.
Pascal, tu sais, à l'émission On en jase, on parle beaucoup des inéquités sociales. On parle beaucoup d'itinérance. Puis on reçoit également des parents à l'occasion qui viennent nous raconter des témoignages. Est-ce que tu te souviens de Valérie David, cette maman qui était venue nous voir avec sa jeune autiste, qui avait été placée dans des foyers et qui avait reçu des mauvais traitements?
Malheureusement, oui.
Bon, ben dimanche matin, moi, quand je me suis levé, j'avais un message de Valérie David qui marquait « On m'a appelé pour me dire que l'enquête était finie. » Que cette enquête mène à la conclusion que ma fille a bel et bien été victime de violences physiques et verbales sur un moyen long terme, que les actes adéquats avaient été pris contre les employés fautifs, et elle nous remerciait justement, Boulevard 102, en particulier moi et toi, Pascal, d'avoir fait cheminer son histoire pour mener à cette conclusion-là. Fait que moi, là, pour moi, ça, c'est la force d'un média.
Parce que souvent, c'est des gens qui ne voient plus les ressources, hein, qui ne voient rien au bout du tunnel pour avancer dans leur dossier. Puis c'est un peu malheureux parce qu'on a ce pouvoir d'aider peut-être à porter le message de ces gens-là. Mais en même temps, pourquoi il faut que ça se rende dans les médias pour que ça bouge?
Exactement. C'est ce qui est très malheureux. Et on va parler d'une autre histoire malheureuse. On s'entretient avec Mary Jane Sirois, maman d'un jeune enfant qui vit avec le trouble du spectre de l'autisme et qui a beaucoup de problématiques avec son centre de services scolaires. Mary Jane, merci beaucoup d'être présente avec nous.
Ça fait plaisir.
Mary Jane, raconte-nous un peu ce qui se passe. J'en ai fait un résumé avant la pause. Ton enfant est dans une école spécialisée, doit aller dans un service de garde dans une école dite régulière, puis là, il est expulsé sans préavis.
Exactement. Dans le fond, mon fils, il a un trouble du spectre de l'autisme niveau 3. Puis lui, il fréquente l'école du domaine dans le secteur Petit Prince. Ça, c'est les classes d'adaptation pour les enfants à besoins particuliers. Puis lui, il doit aller au service de garde de Stadacona, donc son école de bassin. Puis en premier lieu, en fait, ce qui s'est passé, avant les vacances de Noël, il y a eu une expulsion temporaire, le temps de mettre des solutions en place pour pour adapter, dans le fond, son milieu, puis qu'il ait des meilleures expériences à l'école. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé après le retour, il s'est fait dans les environs du 4 décembre, mais moi, on m'a pas averti, en fait, qu'il retournait au service de garde de Stadacona. Donc, quand je suis allée à du domaine pour aller le chercher, en fait, il était pas là.
Donc, tu n'avais pas été avisée, puis toi, non. Tu t'en vas chercher ton enfant, puis il n'est pas là. La panique doit te pogner par à peu près.
Ben en fait, j'étais pas paniquée, j'étais fâchée. J'étais vraiment fâchée parce qu'il y a eu un manque de communication à quelque part, encore. Ensuite, ça va bien, là, au service de garde de Stadacona, en tout cas, je pense. Puis, le 30 janvier... Le vendredi 30 janvier à 18h55, on m'a envoyé un courriel d'arrêt de service définitif pour mon fils, sans préavis, sans plan de transition, sans rencontre parentale, sans solution alternative.
La veille de cet arrêt-là?
Non. En fait, le vendredi, l'arrêt se faisait le lundi.
C'est ça, donc dans l'immédiat ou presque, là.
C'est ça, dans l'immédiat. Puis même si j'avais voulu avoir une solution alternative, ben on était le week-end. Tout est fermé. Fait que je pouvais pas trouver une solution pendant ce 48 heures-là. Puis un préavis de 48 heures, c'est beaucoup trop court, surtout considérant le trouble du spectre de l'autisme de mon enfant. Il est censé avoir une transition... Parce que quand on fait un changement dans la routine brutale chez un enfant autiste, ça peut lui occasionner des régressions.
Ah, clairement. Pour avoir déjà travaillé avec cette clientèle-là, on repart du début. Tous les progrès qu'on a fait, on les perd.
Oui, c'est ça. C'est des désorganisations, de la régression. Après ça, au niveau comportemental, familial, il y a des nouvelles choses qui se passent parce que, justement, il a été désorganisé très brutalement. Puis, il y a eu un manque à quelque part au niveau de Stadacona. Parce qu'on est censé de suivre une procédure avant une exclusion. Il y a plusieurs étapes comme...
Ouais, quand tu parles au centre de services scolaires, premièrement, pourquoi on l'envoie à Stadacona? Puis deuxièmement, pourquoi on n'a pas suivi ces étapes-là? Parce que pour connaître des gens qui travaillent en service de garde, justement, dans les écoles, puis pour avoir déjà géré les services de garde dans des organismes communautaires, tu sais, il y a des procédures, il y a des avertissements, il y a des rencontres avec les parents, il y a des nouvelles façons de procéder sur le terrain, il y a de l'accompagnement qui va se faire avec les parents. Toi, ce que tu me dis, c'est que tu n'as vécu rien de ça, puis pataf, d'en face l'expulsion.
J'ai eu aucune rencontre, j'ai eu aucun plan d'intervention. J'ai pas eu d'analyse spécifique non plus. J'ai pas eu de mise en place d'accommodement pour mon fils. Il y a pas eu d'évaluation, de réajustement. Et il y a pas eu de rencontre formelle avant de prendre une décision. Moi, on m'a juste mis devant le fait accompli, comme c'est trop difficile avec ton enfant. Fait que, t'sais, arrange-toi. C'est comme ça que je l'ai vu, en fait, là.
Ça fait pas vraiment de sens que tu aies vécu ça. Et là, quand tu communiques avec le centre de services scolaires, qu'est-ce qu'on te dit?
En fait, moi, j'ai envoyé des plaintes écrites et je n'ai pas eu de nouvelles encore. Les seules nouvelles que j'ai eues, c'est de la direction de l'école directement qui a mis en place, en fait, une date de rencontre lundi prochain. Mais moi, on m'a fait une rencontre après les faits accomplis. Fait que, tu sais,
c'est quoi les lacunes selon toi? Est-ce que tu penses que tu es la seule à vivre ce genre de désorganisation, de manque de communication-là? Penses-tu que les jeunes autistes de notre région n'ont pas nécessairement tous les coussins bénéfiques à leur cheminement personnel? Est-ce que c'est-tu un manque at large? Est-ce qu'on a oublié cette portion-là de la société? Sens-tu que ça te revient sur tes épaules, finalement?
Ben c'est clair, net et précis que je ne suis pas le seul parent d'enfants à besoins particuliers qui vit ce genre de situation-là. Puis justement, je trouve que qu'on n'en parle pas assez.
Mais c'est particulier parce que tu dis, il y a tellement d'administrations dans des niaiseries du genre, si une secrétaire, une adjointe veut du papier dans son imprimante, il faut qu'elle passe par 150 paliers pour avoir sa commande. Fait qu'on s'embourbe là-dedans. Par contre, on met pas l'énergie dans d'autres spectres qui sont importants de notre société, soit l'éducation de ces gens-là avec des besoins particuliers. C'est-tu parce qu'ils sont pas assez? C'est-tu parce que on n'a pas assez travaillé? Je comprends pas... Pourquoi on s'est rendu là? Est-ce que vous êtes capable de nous ouvrir la porte vers ça?
Bien, c'est vraiment une bonne question, en fait. Parce que moi non plus, je peux pas comprendre comment on a fait pour se rendre jusque-là. Parce que, tu sais, je suis consciente que peut-être au niveau du ministère, il y a eu des coupures ou quelque chose du genre, mais mon enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme n'a pas à écoper de ça. Parce que c'est pas de sa faute à lui. Ses comportements sont pas intentionnels. Tu sais, parfois, il comprend même pas qu'est-ce qu'il fait. Hein. Tu sais, il est non-verbal. Fait que s'il se passe quelque chose de vraiment grave, il peut même pas me le dire. Mm-hmm.
Fait que... Pour rappel, on parle avec Mary Jane Sirois. C'est une maman d'un enfant de 6 ans atteint du trouble du spectre de l'autisme grade 3 et qui a vu son enfant être expulsé du service de garde de l'école pas plus tard que vendredi dernier par courriel à 18h et qui est sans moyen pour cette semaine. Mary Jane, tu rencontres le centre de service et la direction d'école lundi prochain.
Exactement.
C'est quoi tes attentes?
Moi, mes attentes, c'est que les droits de mon garçon soient respectés parce que même s'il y a un handicap neurologique, c'est un humain, il y a des droits, puis il y a des protocoles aussi à respecter avant quelque chose d'aussi drastique dans sa vie. Puis aussi d'en parler parce qu'il y a un problème à quelque part, puis il faut que ça se règle. Parce que, comme je dis, c'est sûr que je ne suis pas le seul parent à qui ça arrive.
Vous n'avez aucune autre mesure là, en ce moment. Donc, l'enfant est à la maison avec vous? Vous êtes en arrêt de travail? Vous...
Non, moi, je suis étudiante, puis j'ai pu m'arranger, en fait, avec l'école du domaine qui puisse aller au service de garde en attendant que ces choses-là se règlent, puis en accepter. Sont vraiment gentils, eux autres. C'est des amours, je les aime. Je veux dire, puis en attendant, ça fait en sorte qu'à Stadacona, lui, il a pas les ressources nécessaires pour ses besoins. Alors, comme je dis, il y a un manquement quelque part, puis faut que ça se règle à quelque part, parce que on peut pas... On peut pas tout gérer tout seul comme ça, puis comme jeter les enfants qui ont trop de besoins parce que c'est trop difficile. Là.
Je termine l'entrevue là-dessus, justement, Mary Jane. Ultimement, la solution est facile, à mon sens. C'est qu'il soit tout simplement admis à temps plein au service de garde de l'école du domaine.
Ben oui, j'y ai pensé. C'est sûr que ça va rendre, exemple, mes trajets à moi plus longs. Mais si ses comportements, tu sais, ils s'améliorent puis qu'il y a pas, tu sais, il y a pas de mauvais comportements quand il est là-bas, tandis qu'à Stadacona, oui, fait que j'imagine qu'il y a clairement un manque à quelque part. Mais si ses comportements, ils se passent super bien comme ça, moi, je pense qu'il resterait à du domaine.
Oui, exactement. Mary Jane Sirois, merci infiniment de t'être livrée à cette entrevue-là. Je veux que tu me fasses une promesse.
Oui.
Tiens-moi au courant lundi après ta rencontre.
Ah, certainement.
Puis s'il y a lieu, on te repasse en entrevue ici à Boulevard pour mettre de la pression sur le centre de services scolaires pour l'école. Ça a-tu de l'allure, ça?
Ça a de l'allure, oui.
Il y a Marie-Ève qui t'envoie beaucoup d'amour par texto parce qu'elle vit merci. Justement avec un enfant qui a le trouble du spectre de l'autisme. Et elle dit, à 12 ans, va falloir que je le fasse réévaluer encore. Donc, un paquet de bureaucratie, de papasserie.
Ah, oh, je comprends
ça. C'est plate parce qu'ils ont tellement de potentiel. Là, ces enfants-là avec des besoins spécifiques. Puis je parle, par exemple, en connaissance de cause. Moi, j'ai une tante qui est trisomique, puis ça a toujours été un branle-bas de combat, puis à un moment donné, bon, ils disent, elle a atteint tout ce qu'elle peut atteindre, effectivement, mais elle travaille, puis elle est capable de travailler, puis elle a un apport pour la société, puis elle paie ses taxes, ses impôts, comme... Il y a aussi dans tout ce qui est le spectre de l'autisme, énormément d'aptitudes, énormément de compétences, et si c'est un service de garde jusqu'à 8, 9 ans, 10 ans, tu les fais pas évoluer. Fait que je me demande où est-ce qu'on se perd puis qu'on se leurre dans le fait de pas les dynamiser puis de les faire évoluer parce que ce sont des apports importants puis ils ont envie de contribuer à la société. Va faire un tour chez TAC, là. Il y en a plein d'enfants à besoins particuliers qui ont évolué puis finalement ont un emploi chez TAC puis qui font rouler l'économie d'entreprise d'ici, qui font affaire avec TAC. Ça leur coûte un peu moins cher, mais ces gens-là sont motivés, ils vont au bureau puis justement, ils ont un apport. Je trouve ça triste parce que si tu restes dans un service de garde, tu n'es pas aussi stimulé que si tu étais dans un parcours scolaire, par exemple.
En effet. Mary-Jane Sirois, merci pour ta présence. Tiens-nous au courant puis on va aller au combat avec toi.
Parfait. Merci beaucoup.
Ça. Merci beaucoup. Après la pause, c'est Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal, qui vient faire sa chronique à chaque mardi et jeudi. On va se poser cette grande question de société. Qu'est-ce que représente le fait qu'on s'astine pour un pont entre deux rives depuis 10 ans? Puis on pourrait le reporter aussi au projet du tramway.
Ouais, j'y ai écrit. Parce que quand tu me dis ça, je te l'avais dit en onde, ça me fait passer au projet de tramway.
Pourquoi on s'astine de même puis qu'on fait rien? C'est quoi qui se passe dans notre société? On parle de ça avec Rémi Villemur au retour de la pause. Alors, on en jase.
On en jase jusqu'à 14 h.